fort.
L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
C'est l'heure du LEM Sport, un LEM Sport presque hivernal, j'ai envie de dire. Notre invité cette semaine, c'est un local de l'étape puisqu'il s'agit de Jérémy Louette, auteur d'ouvrages sur le hockey sur glace. Il vient nous partager sa passion pour le hockey. Bonjour Jérémy.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, on précise ou pas le hockey sur glace spécifiquement nord-américain ou tous les hockey sur glace ?
Spécifiquement nord-américain. J'ai pas envie de me lancer dans la Ligue Magnus, un petit peu les Albatros, mais spécifiquement la NHL parce qu'il y a beaucoup de choses à voir.
Eh bien parfait, on en reparle tout à l'heure. Car avant de rentrer dans le vif du palais, on retrouve Hugo pour les actus sports de la semaine.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Transistor et vous écoutez le grand retour des évadés du sport, votre flash autour de l'actualité sportive bretonne. Au sommaire aujourd'hui, le Brest-Bretagne Handball qui caracole en tête de la D1 féminine. Avant la Ligue des Champions, les Béliers de Quimper bien lancés dans leur objectif de remonter en Pro B de basket. Enfin, nous aborderons les difficultés du Quimper Volley en Liga féminine. Le handball, donc, pour débuter ce flash. Les joueuses du Brest-Bretagne Handball se sont offert un succès spectaculaire après la trêve internationale, samedi dernier, devant leur public, contre Nice, sur le score de 40-21. Ce score témoigne de l'emprise offensive des Finistériennes sur la partie, dans un match plus généralement maîtrisé de bout en bout et dans tous les secteurs. Les internationales françaises, à l'instar d'Oriane Onondo, ont su se mettre en valeur, à la grande satisfaction donc de leur coach Raphaël Tervel, qui se projette déjà sur la suite, et plus précisément la réception dès ce mercredi soir de Sambre Avesnois à 20h pour conforter la première place du championnat. Les partenaires de Florian André, également très en forme, enchaîneront par la suite avec une double confrontation décisive en Ligue des Champions durant les deux prochains week-ends. Rappelons que les Finistériennes veulent cette saison être au rendez-vous des grandes victoires nationales et européennes. Place au basket, les Béliers de Quimper sont en tête de leur poule de National 1 masculine, avec l'objectif clair de remonter en Pro B au printemps 2025. Vendredi dernier, les Béliers ont renversé Toulouse à la salle Michel Glohagin, comme à son habitude bouillante. Le score est de 81-60. Après une entame de match complexe en termes d'adresse comme de rigueur défensive, où les Toulousains s'étaient montrés opportunistes pour prendre la tête de la rencontre, l'entraîneur breton Thibaut Wolschicki a su trouver les mots justes pour remobiliser ses troupes à la mi-temps. Et c'est donc porté par Yamar Abrahams, dans un soir parfait au tir et en particulier à 3 points, avec un 3-3, que Quimper continue de s'affirmer comme un favori pour la montée en devenant très souvent un rouleau compresseur durant les deux derniers quart-temps. Objectif, 7 victoires consécutives pour les coéquipiers d'Antoine Duduit sur le parquet des Sables d'Olonne, également ce soir à 20h en Vendée. Parlons désormais volley. Les joueuses du Quimper Volley se sont inclinées, mais avec les honneurs, face aux championnes de France en titre de Levallois-Perret, 3-7-1 à domicile samedi dernier. L'équipe de François-Xavier Garnon n'a pas su être efficace dans le dernier geste au moment de pouvoir prendre le contrôle de la partie, ce qui a permis logiquement à Levallois de reprendre le dessus avec plus de maturité et d'efficacité dans les zones décisives du terrain. Les Quimperoises sortent avec un bilan mitigé sur le plan des résultats de cette période face aux gros cylindrés, 3 rencontres face aux 5 premiers du championnat, avec 2 défaites et 1 victoire, mais une production très encourageante dans le jeu qui laisse dire aux Quimperoises qu'elles ne doivent pas baisser les bras. Prochain match face à l'Institut fédéral de volley dans 10 jours pour se sortir de la zone de relégation. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau flash des évadés du sport sur Transistor. Je vous laisse désormais avec Pierre-Yves, Fred et leur invité et je vous dis à bientôt.
Merci Hugo et on retrouve notre invité Jérémy Louette et aussi notre Fred, bien local de l'étape aussi celui-ci. Bonjour Fred.
Bonsoir à toutes.
Alors Jérémy, tu habites Rosnoen et tu es auteur d'ouvrages sur le hockey sur glace, ça c'est pas commun. Tu as sorti il y a quelques mois un livre qui s'appelle « Légende de NHL » aux éditions CMS Édition 64. Alors pour rappel, Pour ceux qui ne savent pas, la NHL, c'est la Ligue nord-américaine de hockey sur glace. Alors, Jérémy, comment est-ce qu'on tombe dans le hockey sur glace quand on habite dans un coin où la dernière fois qu'on a vu la rade de Brest gelée, c'était sans doute à la dernière période glaciaire?
Ouais, je pense, ouais. Bah, en gros, moi, je suis né en 1984. Voilà, 40 ans cette année. Et pendant les années 90, la NHL est arrivée sur Canal+. C'était fin des années 90, donc j'ai pu regarder mes premiers matchs de NHL comme ça. Et auparavant, je suis tombé amoureux du hockey sur glace pendant les JO de Lillehammer en 94. J'ai toujours aimé les sports co, parce que moi j'ai toujours pratiqué foot, handball, basket. Et là en fait le hockey, vitesse, rapidité, un peu de bagarre, voilà, les deux pieds dedans. Et les Mighty Ducks d'Anaheim, avec le film Les Petits Champions. Voilà, il y a eu tout un...
Ils avaient un logo particulier, ceux-là.
Qui a été remis au goût du jour cette année, au Ducks d'Anaheim d'ailleurs. Et puis voilà, tout s'est regroupé. Et puis les deux titres de champion de France des Albatros, pareil, à la même époque. Voilà.
Voilà ça comment on y est arrivé. Ça a joué les Albatros de Brest dans ta passion dans le hockey.
Bah oui, parce qu'en fait, je pensais pas qu'il y avait un club de hockey sur glace sur Brest, en fait. Ouais. Je me disais, voilà, 50 bandes de chez moi, il y a les champions de France, donc c'était cool.
Et oui, c'était une époque où les Albatros de Brest cartonnaient, en fait. C'était les champions de... Combien de titres de champions de France sur cette période-là?
Ils en ont gagné deux. Je vais me faire taper dessus si je me trompe de date, mais je crois que c'est 96-97.
D'accord, ok.
Aujourd'hui, se situe où le club aujourd'hui? Parce qu'on a invité qui nous disait l'autre jour que le club n'était pas très en forme, on ne va pas au match, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment se porte le club de Brest?
Eh ben, en gros, maintenant, la Ligue Magnus est une ligue fermée, un peu comme les Américains. Donc, Brest n'y est pas. Ils sont en D1. Donc, la D1, c'est la deuxième division nationale. Ils ont été champions de France de D1 il y a 2 ou 3 ans. Et bon, voilà, on est en sortie de Covid et tout ça. Et la Fédération de hockey française a refusé la montée pour manque de garantie, à ce que j'ai compris.
Ça reste aujourd'hui un club pro avec des joueurs, j'imagine.
Oui, complètement.
Oui, c'est toujours intéressant de regarder d'où viennent les joueurs des Albatros de Brest. C'est vrai qu'on est, souvent assez dépaysés.
Non, c'est sûr. Puis j'ai un collègue, je passe le bonjour à Nathan, qui fait partie de la com là-bas dans le club. Donc s'il nous entend, je lui passe le bonjour.
Comment alors on conjugue cette passion pour le hockey, et notamment nord-américain, parce que c'est des matchs qui ont lieu à des heures où normalement les gens font dodo, un peu comme pour les gens qui suivent la NBA. Alors est-ce que c'est facile à suivre depuis la France?
C'est comme tout supporter de NBA ou de NHL, parce que la NFL, les matchs sont le dimanche en fin de soirée et l'après-midi là-bas, donc c'est plus facile. Mais bon, en semaine, je regarde pas trop, hein, j'évite. Il y a le boulot, mais le week-end, ça m'arrive moins depuis la paternité, mais ça m'arrive toujours de regarder, de rester éveillé à 1h, 2h, 3h du matin pour regarder mon équipe préférée, les Canadiens de Montréal. Donc souvent, les matchs sont à 1h du matin quand ils reçoivent à domicile. Donc bon, c'est tolérable.
Qu'est-ce qui t'a séduit particulièrement dans la NHL et le hockey par rapport à d'autres sports américains comme la NBA ou le foot américain?
Faut savoir que je suis un grand fan de NBA. mon premier pied dans le sport américain, c'est la NBA et Michael Jordan.
Ouais, voilà, les années 90.
Comme beaucoup, je pense. Et donc je pratique toujours un petit peu le basket, hein. Mais le hockey, comment expliquer? Sport collectif, faut mettre des buts, il y a un gardien, enfin voilà, ça ressemble un peu à, je sais pas comment expliquer, la vibe du sport en fait, c'est ça va vite, les mecs sont costauds, il y a de la bagarre, il y a du contact, il y a quand même des mecs athlétiques, mais il y a aussi des mecs super rapides, super techniques. Je pense à Connor McDavid là, c'est qui est exceptionnel. Des mecs comme Sidney Crosby, voilà, ce sont des joueurs rarissimes. Et quand j'ai commencé, en fait, il y avait pas mal d'Européens qui arrivaient en NHL. Donc, il y a ça aussi qui a fait que ça m'a encore mis plus dedans, parce que moi j'étais fan à l'époque, il y avait Timo Selänne qui est finlandais, Peter Forsberg qui est suédois, voilà, en fait je me disais il n'y a pas que des Canadiens, il n'y a pas que des Américains, il y a des Européens.
Il y a eu des Français ou pas en NHL?
Ouais, bah là, il y en a un qui joue au Blues de Saint-Louis, c'est Alexandre Texier. Malheureusement, Pierre-Édouard Belmar a fait un essai à l'Avalanche du Colorado, mais n'a pas été gardé, mais il a quand même une carrière de plus de 700 matchs. Là, il a 40 ans, donc là, il est parti en Suisse. Et le tout premier, c'était Philippe Bozon, dans les années 90, qui a joué au Blues aussi, et qui était récemment encore sélectionneur de l'équipe de France.
T'as eu la chance de te rendre aux États-Unis ou au Canada pour voir un match de NHL ?
Ouais, on est parti au road trip avec ma femme et la famille, et on était parti en Arizona. Donc j'ai eu la chance d'aller voir les Coyotes de l'Arizona contre les Sharks de San Jose.
D'accord. Ah, pas les Canadiens de Montréal.
Non, je suis toujours pas allé au Québec. Ça c'est life goal. Pas atteint encore, mais ça reviendra un jour ou l'autre.
Alors, on va s'arrêter un peu sur ton livre aussi, Légende de la NHL, qui fait 534 pages. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire un ouvrage aussi complet sur la NHL?
Qu'est-ce qui m'a pris?
Bah, ouais, c'est un gros boulot, on imagine, quoi.
Ouais, c'est un gros boulot. En gros, donc j'étais déjà rédacteur au Café Crème Sport.
Ouais, qui a un blog dédié au sport, quoi, avec un
ouais, c'est ça,
original
c'est
aussi, quoi.
Ouais, donc, et on a notre petite cellule de sport américain, et puis il y a un de nos gars qui a sorti un bouquin sur la NFL. Et Marco.
La NFL, le foot américain, pour ceux qui ne
le foot américain. Et puis Marco, à l'époque, avait 22 ou 23 ans. J'ai dit, mais comment t'as fait pour écrire un bouquin de 600 pages? Lui, il a écrit 600 pages carrément. Et j'ai dit, mais comment t'as fait et tout machin? Et puis moi, je suis intéressé par un bouquin, blablabla. Mais bon, c'est pas allé plus loin. Et un jour, il y a Didier Dur, donc le patron de CMS Éditions, qui m'appelle. Et il me dit, bah voilà, je cherche quelqu'un sur le hockey sur glace. Marco m'a parlé de toi. Est-ce que ça te dirait d'écrire un livre? Moi, j'étais au boulot. Je dis, ouais, d'accord, ok. Il me dit, bah, t'as carte blanche. Et donc.
Donc c'est toi qui as choisi le fait de mettre en avant une cinquantaine de joueurs, quoi, qui retrace un peu l'histoire de la NHL, quoi. Alors, comment t'as fait ton choix?
Waouh, c'est dur. vous allez me prendre pour un fou, mais j'ai au moins 3-4 tableaux Excel. J'ai fait des classements, palmarès, public, enfin voilà. Je voulais pas non plus faire de l'affectif, parce que sinon j'aurais mis aucun mec avant les années 70, parce que je les connais pas, enfin je les ai jamais vus jouer, mais ça m'a permis quand même de découvrir des sacrés joueurs, et j'ai adoré découvrir le monde du hockey, mais avant la NHL, cette construction de ligue qui se crée, qui se ferme, les mouvements des joueurs, les déplacements qui étaient dantesques à l'époque. Et en fait, je me suis trouvé un amour de l'histoire du sport américain.
Enfin, ouais, et donc forcément, tu as dû un peu aussi t'intéresser au hockey, mais sur la scène internationale aussi, parce que ça a dû être un truc super intéressant à regarder finalement quand on s'intéresse à l'histoire du hockey. Par exemple, les affrontements Canada-URSS dans les années 70, le match USA-URSS aux Jeux Olympiques de 1980 aussi, qui a un côté atypique. Ça a dû t'intéresser aussi, ça.
Ouais, ça m'a intéressé. Bah, j'en parle dans mon livre, parce que je ne pouvais pas passer à côté. Ça fait aussi la légende des joueurs. Alors, je ne parle pas tant que ça de 1980, ce que tu disais, parce que le Miracle on Ice, comme ils l'appellent là-bas, c'était des joueurs américains universitaires. Donc, qui n'ont jamais vraiment percé, percé. S'il y en a un qui ont joué en NHL, mais ce ne sont pas devenus des grosses stars. Mais par contre, la série du siècle de 1972, ça a été la première réelle ouverture au monde pour, d'un côté, les Soviétiques. On a découvert le jeu des Soviétiques parce qu'ils restaient contre eux. Et comment les Nord-Américains, dont les Canadiens qui étaient, qui se prenaient pour des dieux sur Terre, se sont rendus compte que il y avait pas mal aussi en URSS, et ça a fait une série de fous que les Canadiens ont remporté.
Aujourd'hui, quelles sont les nations fortes? Alors, on parle de l'URSS, on parle des États-Unis, du Canada. Est-ce qu'il y a d'autres nations comme ça qui émergent, et où situe la France également dans ce paysage mondial là?
Là, la France, malheureusement, pour ça fait 22 ans qu'on ne va pas participer aux JO. On a perdu en finale de TQO contre la Lettonie.
Tournoi qualificatif olympique, TQ.
Ouais, c'est ça, exactement. Et c'était en Lettonie, donc les Lettons sont un peu meilleurs que nous. On doit être la 13e ou 14e nation mondiale. On a quand même une chance de participer parce que bah, pour l'instant, la Russie et la Biélorussie ne sont pas invités à cause du contexte politique. Donc, si la Russie n'est pas au JO, c'est la France qui sera repêchée. Parce que, si je n'ai pas de bêtises, les 8 meilleures nations mondiales au classement sont directement automatiquement qualifiées pour les JO.
Et puis, au pire, on les verra aux Jeux Olympiques d'après, qui seront organisés en France.
Qui seront en France, ouais.
Là, l'équipe de France pourra participer au tournoi olympique de manière automatique.
C'est ça. Bah là, les Italiens joueront automatiquement à Milan en 2026. Et pour revenir à ta question, donc les meilleures nations, bah il y a toujours. En vrai, ça a jamais vraiment changé. Hein. C'est Canada, USA, Suède, Finlande, Tchéquie, Slovaquie. Et puis bon, bah nous, on a. Il y a un lot derrière avec France, Norvège, Biélorussie. La Suisse, les Suisses sont très bons également. Les Allemands sont très bons aussi. Voilà. Mais c'est européen. Européen plus Canada et États-Unis.
C'est un sport qui est aussi pratiqué au niveau féminin, avec des championnats, des fédérations bien développées.
Oui, alors, c'est pratiqué au niveau féminin, mais il y a un cran de retard, malheureusement. Hein, mais pour vous apprendre, donc on a la NHL. Aux États-Unis, Canada, et la PWHL vient d'être créée il y a seulement un an.
D'accord, ah oui, c'est tout neuf.
Et il n'y a que 6 franchises, 3 okay. américaines, 3 canadiennes, donc c'est vraiment tout neuf. Mais sinon, oui, il y a les nations, et deux nations, enfin le classico du classico hockey féminin, c'est Canada, États-Unis. Je crois que c'est tout le temps les finales des JO, et les filles ont un niveau, c'est super intéressant à voir. Hein. C'est, franchement, elles n'ont pas envie aux mecs. Hein.
Et c'est un peu comme dans d'autres sports, parce qu'on voit au foot, par exemple, il n'y a pas forcément les mêmes façons de jouer entre foot masculin et féminin, quoique aujourd'hui le niveau s'élève beaucoup au niveau féminin, mais est-ce qu'il y a une manière particulière de jouer chez les femmes au hockey?
Bon, pas tant que ça.
Par exemple, un peu violent parfois qui peut l'image oui. du hockey qui est viril, on va dire comme ça, entre guillemets. Est-ce que voilà, il y a d'autres façons de jouer qui apparaissent avec le hockey féminin?
Bah, il y a moins de bagarres, c'est sûr. C'est un peu moins physique, mais c'est un peu plus rapide. C'est un peu plus rapide. Quand ma tête Connor McDavid, il va tellement vite sur la glace celui-là que. Mais non, c'est. Bah, pour faire un comparo, oui, ça ressemble un peu à foot masculin, foot féminin. Franchement, elles n'ont pas envie, ça se développe bien. Après, en France, niveau féminin, je connais pas trop. Je vais pas faire genre, mais c'est vrai que je connais pas trop.
Le hockey sur glace féminin et sport olympique aussi, ça aide oui. au développement du sport. Et on parlait tout à l'heure là, de un peu du côté historique. Tu es remonté jusqu'au plus loin, là, c'est dans ton livre. Tu étais remonté au plus loin à quelle date?
J'ai retrouvé des archives québécoises où ils parlaient. 19e siècle, c'est au Canada, mais. Il y a 300, 400, 500, 600 ans, il y a déjà des gens en fait qui jouaient avec une balle.
Ah, t'es revenu aux bâton. Origines du sport, quoi.
Ouais, j'en parle un peu au début du bouquin. Vraiment en introduction, je parle vraiment, mais même je crois que je suis. Il y a des archives, c'est en Grèce ou je sais plus où en Mésopotamie, on jouait déjà avec un ballon et un bâton, en gros. Et donc c'est devenu au fil du temps, les siècles après siècles, c'est devenu le hockey sur gazon. Donc on a beaucoup en Europe. Et il y a eu la variante des immigrés anglais, écossais au Canada, et ça a créé le hockey sur glace.
Ouais, parce que la NHL, la Ligue, a été créée quand?
En 1917.
En 1917, ok. Donc bien antérieur à la NBA, qui a connu oui. plein d'aventures assez compliquées dans les années 50, 60, 70, pour finalement, pour qu'on connaisse à peu près ce que c'est aujourd'hui. Ouais. Ah ouais, 1917, ça remonte à aussi loin.
Ça remonte aussi loin. Il y a toujours des clubs qui sont d'actualité. Hein. Il y avait déjà le Canadien de Montréal, il y avait déjà les Maple Leafs de Toronto et les Rangers de New York, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est les trois vraiment qui n'ont pas bougé depuis, qui existaient même avant.
Il y a des livres justement dans le paysage du hockey. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup d'ouvrages comme ça sur le hockey? Est-ce qu'il fait référence aujourd'hui? Est-ce que tu as été contacté justement depuis ce livre-là pour pouvoir continuer ou travailler pour d'autres études?
Alors, il y a d'autres livres. Le plus connu que moi j'ai eu, c'est 99 de Wayne Gretzky, mais bon, c'est pas français. Donc, c'est la biographie de Wayne Gretzky, donc c'est le plus grand joueur de tous les temps au hockey, c'est Michael Jordan au basket. Sinon, en français, je sais qu'il y a un livre qui était sorti il y a quelques années de ça, mais ça se compte sur les doigts de la main, il n'y en a pas tant que ça. De toute façon, le hockey sur glace en France, c'est un sport très très niche. Donc oui, ça court pas les rues. C'est vrai qu'en France, nous, c'est énormément foot, rugby, basket. Faut pas se mentir. Donc c'est pour ça aussi que ça m'a donné l'envie d'écrire un bouquin. Quand Didier, mon éditeur, m'a donné carte blanche, je me suis dit, bah ouais, vas-y, let's go, faut que je fasse un truc assez généraliste aussi, afin de pouvoir faire un peu la pub du hockey sur glace pour les Français, en fait, pour qu'ils apprennent un peu ce qu'est ce sport.
Il y a Benjamin Bernard de Beansport qui a signé la préface de ton ouvrage. Benjamin Bernard, c'est peut-être un peu exagéré, c'est pas un peu de George Eddy du hockey?
Ouais, Benjamin, c'est lui qui fait partie de l'équipe qui commente la NHL sur Bein. En parlant avec lui sur WhatsApp, surtout parce que c'est quelqu'un qui est très pris avec Bein, avec tous les déplacements qu'il fait pour commenter les matchs. Parce qu'il fait pas que ça, il fait le volley, il fait aussi le foot américain. Et il me disait que son premier pied, lui, dans le sport américain, c'était le hockey. Parce qu'il est de Grenoble et donc il y avait les brûleurs de loups.
Et oui, ouais.
Voilà, donc c'est venu comme ça, lui il a dit le hockey c'est mon truc, voilà. Donc quand c'est Didier l'éditeur qui le connaissait un peu mieux, qui lui a proposé, puis il a pas hésité une seconde. Donc je lui remercie encore une fois.
Et ouais, parce que ça donne je sais pas si on peut dire que ça crédibilise le projet, mais en tout cas avoir la patte de Benjamin Bernard de Beansport en préface d'un ouvrage, c'est quand même la classe, quoi.
Ouais, c'est cool.
Tu avais déjà écrit des ouvrages avant ou tu as d'autres projets comme ça de ce type?
Non, j'avais pas fait de livres avant, donc j'avais écrit des articles au sein de Café Crème Sport. Des projets, il y a des collègues qui aimeraient bien que je fasse sur la NBA, mais il y a 2 ans et demi, enfin voilà. Pour l'instant, je reste là-dessus. Ça fait un beau pied de nez aussi à mes profs de français de collège lycée. Ils pensaient pas que je le serais.
Ah oui.
Donc non, pour l'instant, je reste sur ça, et puis on verra de quoi le futur sera fait.
Ouais. Ça t'a pris quand même, pas loin de 2-3 ans l'écriture de l'ouvrage, hein, c'est ça?
Je me souviens d'avoir officiellement, j'ai commencé en janvier 2022 et le livre est sorti en mars 2024. Voilà, donc ça fait presque 2 ans et demi. Hein.
Ok, donc c'est pas pour tout de suite le prochain.
Non, on va attendre.
Eh bien, parfait, merci beaucoup Jérémy. Un petit dernier mot peut-être sur, c'est vrai qu'on l'évoquait là, le hockey n'a pas tout à fait la même visibilité que d'autres sports. Penses-tu que le public français est prêt à s'intéresser davantage au hockey et en particulier à la NHL, quoi?
Faut, là, pour les gens de notre coin, aller voir les Albatros. Déjà, rien, c'est le deuxième niveau français, mais franchement, l'ambiance est super. Les tribunes sont toujours pleines. C'est un sport où il n'y a jamais de temps mort, en fait. Bon, à part quand il y a un temps mort. Mais il n'y a pas d'arrêt de jeu tant que ça. Donc, c'est très, très speed. Ne vous inquiétez pas. En vrai, on voit bien le palais sur la glace. Même si
c'est
des fois,
vrai,
la télé, on voit bien.
Mais à la télé, vrai, surtout avec les vieilles télés des années 90, avec le
tube, c'est ça.
C'était compliqué.
Quand ça pixelise, ouais. C'est un peu dégueulasse. Ouais. Mais non, franchement, le hockey, pour moi, je suis convaincu, a vraiment sa place dans le sport français, parce que le français est un fan de sport collectif. Mm-hmm. On a vu comment le hand a explosé grâce au titre des experts et tout ça. Ce qu'il faut, c'est une étincelle pour le hockey français. Et c'est un beau parcours au JO. Quand on voit ce que ça a donné pour le judo, pour le tennis de table cet été, les licences ont explosé. Bon, voilà, c'est tout ce que je leur souhaite, c'est que malheureusement que la Russie soit pas prise et qu'on aille au JO 2026 et puis on sera quand même au JO 2030. Donc j'espère que ça va le faire et qu'il y aura une belle visibilité.
Oui, parce que on évoquait le cas de Brest qui est en D1, donc le deuxième échelon au niveau du hockey. En France, ce qui fait référence en termes de championnat, c'est la Ligue Magnus. Tu l'as dit, c'est une ligue fermée. En France, on a quand même un ou deux clubs qui arrivent à faire quand même des choses assez intéressantes aussi sur la scène européenne, parce que il y a aussi des affrontements qui se font avec d'autres clubs d'envergure européenne.
Oui, bah il y a souvent. Rouen, c'est un gros bastion français. Donc, il n'y a pas eu de titre récemment. Je connais moins. Comme je vous dis, le hockey français-européen, je connais un peu moins. Mais on n'est pas les meilleurs. Parce que le meilleur championnat européen, c'est la KHL, donc en Russie, qui veut être la première concurrente à la NHL.
Qui pour l'instant est une ligue fermée, très fermée, très fermée, puisqu'ils jouent contre...
Trop fermée. Non, il y a la KHL. Après, le championnat français, je crois qu'il ne s'est même pas dans le top 10 européen. C'est encore à travailler. Mais les meilleurs joueurs français jouent, s'expatrient. Donc, ça, c'est bon pour nous aussi.
Il y a une époque, on pouvait espérer voir les Albatros de Brest bien figurer sur la scène européenne. Et maintenant, c'est le Stade Brestois qui le fait. Et ça, c'est incroyable. Et ça va nous arriver.
T'as pas pu t'empêcher de reparler de foot.
Mais on est obligé, c'était une transition.
Mais non, mais il n'y a pas de problème, je suis grand fan aussi.
Bon, bah, on va parler de foot dans quelques instants dans la deuxième partie du LEM. En tout cas, merci. Merci Jérémy, merci Fred.
Merci à vous.
On rappelle le nom de ton ouvrage, c'est le
grand Légende de NHL.
Légende de NHL aux éditions CMS. C'est comme ça qu'on dit ?
Aux éditions CMS, tout à fait. Et disponible sur quasiment toutes les plateformes.
Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup.
Bon, merci à vous.